commencer par prier. C'est probablement une bonne idée. Eh bien, Seigneur Jésus, merci. Merci pour tout ce qu'on a déjà vécu ce matin ensemble. Merci pour ton Église. Merci pour la beauté de ton peuple qui se réunit. Et merci pour tout ce qu'on va vivre encore maintenant grâce à toi, parce que tu es là. Inspire-moi, Seigneur, que vraiment les mots qui sortent de ma bouche puissent toucher les cœurs qui sont là devant moi ce matin. Amen. Alors, j'avais vraiment à cœur ce matin de... Vous savez, on a fêté Pâques la dernière fois qu'on était ensemble. Il y avait Rémi qui prêchait. C'était vraiment la célébration de Pâques. Donc, on a rappelé que Pâques, ce n'était pas juste les œufs et les cloches et les lapins, mais que c'était avant tout le jour où nous fêtions la résurrection de Jésus, le troisième jour. Et quand j'ai su que c'est moi qui allais parler ce matin, j'avais vraiment à cœur de rester un peu sur ce moment-là de l'histoire. Je trouve que, vous savez, comme on suit un peu le calendrier chrétien, c'est normal de faire des messages un peu dédiés aux fêtes qu'on célèbre. Je trouve que parfois, et dans notre vie tous les jours, c'est parfait, on peut avoir tendance à vite passer à la chose d'à côté. Et moi, j'avais vraiment à cœur de rester sur la résurrection et de parler de qu'est-ce que ça veut dire cette résurrection pour nous. Et il y a un passage de la Bible, les enfants, qui a particulièrement retenu mon attention. C'est un passage sur lequel j'avais déjà prêché, une fois, mais qui est tellement merveilleux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lire ce passage dans Luc 24, à partir du verset 13. Ça s'appelle « Les disciples d'Emmaüs », « Les disciples en chemin vers Emmaüs ». Et une fois que j'aurai lu ce passage et expliqué un peu pour les enfants, on va faire une petite mise en pratique, et pour ça, je vais avoir besoin des enfants. Vous êtes d'accord, les enfants? Vous voulez bien m'aider? Super. Donc, Emmaüs, verset 13, Luc 24, verset 13. Le même jour, deux disciples se rendaient à un village nommé Emmaüs, à une douzaine de kilomètres de Jérusalem. Donc le même jour, pardon, c'est le jour de la résurrection, le dimanche. Pendant qu'ils échangeaient ainsi leurs propos et leurs réflexions, Jésus lui-même s'approcha d'eux et les accompagna. Mais leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. Les deux disciples marchent vers ce village, mais ils ne reconnaissent pas Jésus qui les rejoint. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Ils s'arrêtèrent, l'air attristé. Ils sont vraiment tristes. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Mais es-tu le seul parmi tous ceux qui sont à Jérusalem qui ne sachent pas ce qui s'est passé ces jours-ci ? Quoi donc ?» leur demanda-t-il. Jésus fait, vous savez, il fait un peu le... Je ne sais pas comment dire, mais il fait l'air étonné, le naïf. Merci, Sam. Quoi donc ? Je me suis perdu. Non. Quoi donc ? Leur demanda-t-il. Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un prophète qui agissait, qui parlait avec puissance devant Dieu, devant tout le peuple. Nos chefs des prêtres et nos dirigeants, les Romains et les prêtres, l'ont livré aux Romains, pour le faire condamner à mort et clouer sur une croix. Nous avions espéré qu'il était celui qui devait libérer Israël, mais hélas, voilà déjà 3 jours que tout cela est arrivé. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont fort étonnés ce matin, il parle du matin même. Elles sont allées au tombeau ce matin, mais elles n'ont pas trouvé de corps et sont venues raconter qu'elles avaient vu apparaître 2 anges et leur ont assuré qu'il était vivant. Rien que ça, il y a quand même eu 2 anges qui ont dit textuellement, il n'est pas mort, normal, le tombeau est vide, il est vivant. Bon, visiblement, ces deux-là n'y ont pas trop cru. Là-dessus, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous, donc les autres disciples, se sont aussi rendus au tombeau. Ils ont bien trouvé les choses telles que les femmes les avaient décrites. Donc les femmes disent qu'il est vivant, et donc les autres disciples vont voir, donc des hommes cette fois-ci, parce que vous savez, à l'époque, la parole des femmes n'avait pas beaucoup de valeur. Donc d'autres disciples y vont, et effectivement, le tombeau est vide. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Ah ! Homme sans intelligence. » Dans d'autres versions, le mot stupide est utilisé. Donc Jésus vraiment leur rentre un peu dedans pour le coup. Il leur dit, vous êtes un peu bêtes. Vous êtes bien lents à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Le Christ ne devait-il pas souffrir toutes ces choses? Il ne devait pas mourir avant d'entrer dans sa gloire? Alors, commençant par les livres de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes, Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. Entre-temps, ils arrivèrent près du... Donc ils savent toujours... Les deux disciples marchent avec Jésus, mais ils n'ont toujours pas compris que c'était Jésus qui était avec eux. Entre-temps, ils arrivent donc au village où ils se rendaient. Jésus semble vouloir continuer sa route. Jésus veut continuer. Il avait fini son travail pour lui. Mais ils le retinrent, ils le retiennent. Ils disent non, toi, t'es vraiment sympa, reste avec nous. Je pense qu'ils avaient commencé à sentir quand même quelque chose, bien qu'ils étaient hommes sans intelligence, avec une vive insistance en disant « Reste avec nous, tu vois, le jour baisse, le soir approche. » Alors il entra dans la maison pour rester avec eux. Jésus change d'avis, il devait partir, il dit « Non, je vais rester avec ces... » Il dit « Ah, peut-être j'en ai pas vraiment fini avec eux. » Alors, non, pas alors, il se mit à table avec eux, prit le pain, comme il avait fait la veille d'être crucifié, vous savez, il prit le pain. Et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le partagea et leur donna. Au moment où il fait ce geste-là, Jésus, il partage le pain, comme la veille de sa crucifixion. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. C'est au moment où Jésus partage le pain que les yeux des disciples s'ouvrent et ils reconnaissent. Mais c'est Jésus! Mais déjà, il avait disparu. Oh, à peine le temps de reconnaître que le gars qui est à table avec eux est en fait Jésus. Et là, d'un coup, téléportation, il disparaît. Wow, il devait être vraiment dégoûté, se sentir peut-être même un peu bête de ne pas l'avoir reconnu plus tôt. Et ils se dirent l'un à l'autre, n'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures ? Ah, quand même, ils avaient un peu senti quelque chose. Ils se levèrent sur l'heure et retournèrent à Jérusalem. Donc ils viennent de faire 10-12 kilomètres. Il se passe ça, Jésus disparaît, ça change complètement leur programme. Ils retournent à Jérusalem, sens inverse. Donc ils étaient costauds à l'époque, ils marchaient beaucoup, mais quand même gros enthousiasme là. Ils y trouvèrent les 11, il en manquait un forcément, vous savez ce qui s'est passé, Judas n'était plus là, réunis avec leurs compagnons. Tous les accueillirent par ces paroles. « Le Seigneur est réellement ressuscité !» Il s'est montré à Simon. Alors les deux disciples racontèrent eux aussi tout ce qui s'était passé avec eux en chemin et comment ils avaient reconnu Jésus au moment où il avait partagé le pain. Et là, je ne l'ai pas mis, mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Pile à ce moment-là, donc Jésus avait disparu de la table et au moment où ils disent « Mais oui, nous aussi, il est avec nous !» Tching ! Jésus apparaît de nouveau dans ce lieu avec tous les disciples et là, il lui dit « Ne vous inquiétez pas !» Je pense qu'il a bien fait de leur dire ça parce qu'il doit leur faire peur. Vous savez, ils sont en train de parler de lui et d'un coup, il apparaît ici. Il dit, ouh, est-ce que d'ailleurs, certains croient que c'est un fantôme. Et là, qu'est-ce qu'il fait ? Il leur montre les trous dans ses mains. Voilà, donc les enfants, nous avons fini cette histoire. Deux hommes qui sont très tristes que Jésus soit mort. Ils se disent, bon, ben, finalement, c'était peut-être pas lui le Messie. Ils s'en vont vers ce village et en chemin, Jésus leur apparaît. Ils ne le reconnaissent pas. Au moment où il réalise que c'est lui, bien vivant, en chair et en os, il disparaît et ensuite il le retrouve quelques heures plus tard. Du coup, on peut parfois être avec des gens, mais ne pas vraiment reconnaître qui ils sont. Il faut faire attention aux apparences. Donc là, je vais demander à mes deux filles de venir devant. On va faire un petit exercice. Et ensuite, on le refera avec deux autres enfants. Donc, je vais leur bander les yeux. Bandez-vous les yeux vous-même, en fait. Vous êtes grande. Si, essayez. Il ne faut juste pas que vous y voyez. Vous arrivez à faire le nœud ou pas ? Je le fais. Ah, merci, Hélo. Ah, le ministère du corps, on a toujours besoin des autres. Magnifique. Donc, ce qu'on va faire avec Loïs et Rose, c'est que je vais appeler quelqu'un parmi vous. Il va devoir parler, dire la phrase suivante. Bonjour, comment ça va ? Et le but, c'est qu'elles arrivent à reconnaître qui est cette personne sans le voir. Alors on ne dit rien, ceux qui sont dans la salle, on ne dit rien. Voilà, les filles, la personne s'approche de vous. Voilà, mettez-vous comme ça, tac et tac, voilà. Et il va vous dire cette phrase, bonjour, comment ça va ? Et vous allez essayer de me dire qui vous parle. C'est parti. Alors, est-ce que vous savez qui c'est ? Oui, bravo ! Super, Maloïse, génial. Bravo. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Tout travail mérite salaire. Une sucette. Bravo pour la participation. Oui, tout ça a été planifié ce matin au petit déjeuner. Merci, vous pouvez vous rasseoir, mes chères filles. Est-ce que vous voulez, les enfants, qu'on fasse le test avec deux autres enfants? Ah, c'est bizarre, dès qu'il y a les sucettes, il y a beaucoup de mains qui se lèvent. Eh bien oui, Eunice et Siana, venez. Ma chère assistante peut... Merci beaucoup. On va refaire, voir si ça marche, hein, parce que vous vous rendez compte, c'est pour nous aider à comprendre. Les disciples, ils font 10 km avec Jésus, celui avec qui, au milieu de qui ils avaient été pendant des mois, des années. Ils ne le reconnaissent pas, donc je vais voir si nos enfants sont meilleurs que ces deux disciples. Est-ce que ces deux demoiselles arrivent à trouver de qui va leur parler? Alors, qui vais-je bien pouvoir choisir? Je sais, j'ai trouvé. Ah mais non, ben ça ne marche pas. Non, les filles, non, vous savez, votre travail est fait, pas trop de travail, attention, 35 heures. J'essaie de trouver quelqu'un qu'elle connaisse. Oh, mais non. Si, d'accord. C'est bon, les filles, vous êtes prêtes? Alors, la personne va dire bonjour, comment ça va? Et vous allez devoir me dire qui parle.
Bonjour, comment ça va?
Oh là là, bravo, bravo. Vous pouvez enlever ça. Bravo. Eh bien écoutez, vous pouvez vous asseoir, mesdemoiselles. Merci William, t'as vraiment assuré. Oh pétard. William, tout travail mérite salaire. Il me reste quelques sucettes, alors soyez bien attentifs les enfants, hein. J'avais entendu une fois un pasteur qui disait qu'il avait du mal à ce que ses enfants louent Dieu dans l'assemblée. Et du coup, sans le dire à personne, il leur avait dit « Si vous levez bien les bras, que vous fermez bien les yeux, que vous chantez bien, après le culte, vous aurez une glace. » Et du coup, c'est le fils en fait, qui racontait ce témoignage. Et il disait que pendant plusieurs années, quand il était enfant, il faisait ça. Il levait les bras, fermait les yeux, ouais, il pensait à sa glace pendant toute la louange. Sauf qu'à force de faire ça, donc tous les autres enfants et parents de l'église étaient impressionnés. Waouh, que tes enfants sont spirituels. Et en fait, c'était super ce témoignage parce qu'en fait, l'enfant qui aujourd'hui a 45 ans à peu près, racontait qu'à force de faire semblant et de lever les mains et fermer les yeux et chanter en pensant à la glace, les paroles avait commencé au bout de quelques mois, quelques années, d'un coup à rentrer dans sa tête. Et un jour, il s'était retrouvé avec les bras comme ça. Et d'un coup, comme une révélation sur les paroles qu'il était en train de chanter, semblant, mais d'un coup, c'était devenu vrai pour lui dans son cœur. Et là, il était vraiment rentré dans la louange de tout son cœur. J'avais trouvé ce témoignage excellent. Donc, je vais peut-être vous dire ce que j'avais prévu. Donc, suite à ce passage, donc, tout le monde, c'est bon, a bien la scène dans sa tête, le truc le plus marquant. Jésus leur a pourtant dit plusieurs fois « Je vais ressusciter », ils ne le reconnaissent pas. Donc, de ce passage, on va regarder quatre questions, très courtement. Première question, qu'est-ce que ce passage nous apprend sur Dieu? Deuxième question, qu'est-ce que ce passage nous apprend sur les hommes et les femmes, l'humanité? Troisième question, comment le mettre en pratique? Et quatrième question, avec qui est-ce que je peux le partager? D'accord? Donc première question, qu'est-ce que ce passage nous apprend sur Dieu? Jésus est ressuscité. S'il y a un fait majeur dans l'histoire de l'humanité et ce fait majeur qui conditionne pourquoi vous tous et moi on est dans cette salle ce matin, pourquoi on s'est levé, préparé pour venir à l'église au lieu d'aller faire autre chose, un barbecue, peut-être qu'il y sera après, mais pourquoi on est là ce matin? C'est parce que Jésus est ressuscité. Comme les disciples d'Emmaüs, si Jésus n'était pas ressuscité, s'il était resté mort ou s'il avait disparu et qu'il n'était pas revenu, qu'on n'avait pas de preuve qu'il était vivant, tout ce qu'on fait, toute cette foi, toute foi en quoi, tout la louange, lire la Bible, prier, à qui prier, prier à un Dieu qui nous a menti et qui n'est pas vraiment là, qui n'est pas vraiment vivant, il est ressuscité. Et vous savez, c'est une des vérités, si ce n'est la vérité la plus importante et la plus basique qui soit, sauf qu'on peut l'oublier. Sauf qu'on peut l'oublier et passer à côté comme ses disciples sont passés à côté. Matthieu 28, 5, « Vous autres, n'ayez pas peur, je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est plus ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. » C'est ce que les anges disent. Et vous savez, ce qui est extraordinaire, c'est que non seulement Jésus n'a pas arrêté de dire aux disciples qu'il allait ressusciter, il a dit « je vais mourir, le troisième jour je vais ressusciter », il leur a dit plein de fois, surtout les jours qui ont précédé. Mais il n'y a pas que Jésus qui leur a dit. Il y a 3000 ans d'histoire de la Bible, dans ces 3000 ans d'histoire de la Bible, il y a 300 références à la naissance, à la vie, à la mort, à la résurrection, à l'ascension de Jésus-Christ. 300. Ce n'est pas comme si les prophètes étaient restés silencieux ou qu'il y avait 2-3 indices très cachés. Non, il n'y a que ça dans la Bible. Jésus-Christ est non seulement le centre, la venue de Jésus, la croix est le centre de la Bible, mais c'est le centre de l'histoire de l'univers. Amen. Et par exemple, le passage auquel les disciples utilisent vous savez, ce jour où il y a 3000 conversions, le jour de la Pentecôte, il cite le psaume 16, verset 10, « Car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. » C'est David qui écrit ce psaume. Mais en fait, David, vous savez, s'il y a une figure de Christ dans la Bible, c'est bien le roi David. Et au moment où il écrit ça, eh ben, en fait, il parle de Jésus aussi. Voilà, Jésus leur a dit plein de fois, je ne vais pas tout vous dire parce que j'ai vraiment envie que les enfants aient des sucettes ce matin, donc on ne va pas rester trop dans trop de détails. La résurrection est la preuve de notre foi, la preuve de notre foi. Et vous savez, celui qui a écrit le passage que je viens de lire, Luc, c'était un médecin. Lui n'a pas eu la chance de connaître Jésus en direct, personnellement, il ne faisait pas partie des disciples, des témoins oculaires du premier plan. Mais il est arrivé juste après, à l'époque de Paul, c'est pour ça qu'il écrit son évangile, l'évangile de Luc, et en tant que médecin, en tant que scientifique, il a rassemblé beaucoup de détails. C'est pour ça que c'est le seul évangile dans lequel cette histoire est vraiment détaillée. Marc y fait brièvement mention, mais vraiment c'était un scientifique, il a rassemblé tout, et cette histoire est super bien décrite. C'est aussi lui qui écrit l'acte des apôtres, et en fait les actes des apôtres, il était vraiment contemporain de Paul. Il avait cette chance, comme nous, de pouvoir croire sans avoir vu, sans avoir vu. Donc, qu'est-ce que j'ai dit ? Jésus, qu'est-ce que ça nous apprend sur Dieu ? J'avance. Il est ressuscité, la résurrection et Jésus, deuxièmement, ne sont pas un symbole. Vous savez, malheureusement, il y a beaucoup de facs de théologie aujourd'hui en France et dans le monde où on tourne tout en symbole, la résurrection, Jésus lui-même, c'est un symbole, oui, un prophète, oui, et on va dire, mais oui, est-ce que vraiment ça s'est passé ? Est-ce que plutôt il n'est pas juste question de vie, de mort ? Où est la vie ? Où est la mort dans ma vie ? Oui, bien sûr, on peut interpréter comme ça des choses quand on lit la Bible. Sauf que souvent, dans ces lieux-là, on va même mettre en doute que ce sont ça, tout simplement des faits qui se sont passés, tels qu'ils se sont passés. Et ce passage nous montre bien que Jésus et la croix, la mort, la résurrection ne sont pas uniquement un symbole. C'est la vérité. Et qu'est-ce qui nous prouve ça ? Dans ce passage, Jésus se montre, il est présent. Ils ne le reconnaissent pas, mais il est bien là, en chair et en os. C'est au moment où il fait cet acte de la vie quotidienne, de briser ce pain, et là qu'ils peuvent le reconnaître, qu'ils peuvent voir les trous dans ses mains. Oui, Jésus n'est pas un symbole. Il est là, assis à table avec eux. Jésus n'est pas un symbole, c'est une vraie personne. Et les amis, ce que je veux vous dire ce matin, c'est que dans ta vie, Jésus n'est pas un symbole. La croix n'est pas un symbole. Jésus est là, au moment même où je vous parle ce matin, Jésus est là avec toi. Il est assis sur la chaise à côté de toi. Il te regarde, il t'aime. Il n'est pas un symbole. Donc comme les filles nous ont montré, les enfants nous ont montré, soyons conscients de qui est là maintenant avec vous. Ne restons pas dans ce mystère, un peu comme on va voir avec ses disciples. Il n'est pas un symbole et il est présent. Il est, la Bible nous dit, Emmanuel, Dieu avec nous. Amen. Une fois je faisais une descente en kayak quand j'étais ado du Gardon dans le Gard, et je voulais essayer ce nouveau kayak avec une jupe, vous savez, là, il était tout fin, il était un peu trop petit pour moi, et tout le groupe avec qui j'étais du coup était avancé, je m'étais retrouvé tout seul le temps de finir d'installer ce truc, sauf que pour rentrer dans le kayak, comme il était trop petit, j'avais dû forcer et mes jambes étaient un peu coincées. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, j'arrive dans des rapides, des tout petits rapides. Hein, on est dans le Gard, il n'y a pas trop d'eau l'été. Et malheureusement, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Ils étaient tous loin, je pensais les rattraper. Je me retourne et je me retrouve la tête dans l'eau comme ça. Et j'étais bon nageur, mais j'essayais de toutes mes forces de lever avec mes mains comme ça, de nager pour sortir la tête de l'eau, pour respirer. Et la pensée que c'était ma fin m'a effleuré l'esprit. de toutes mes forces, et le courant continuait à m'entraîner, j'essayais de respirer la tête hors de l'eau. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Un homme qui était sur la berge est descendu dans l'eau. J'ai pu mettre mes mains sur lui, respirer. J'étais tout tordu. Il y avait un mètre d'eau, hein, mais ça suffit, un mètre d'eau. Et il m'a tiré jusque sur la berge. Et ceux qui étaient partis, certains avaient commencé à s'inquiéter. Ils sont arrivés tout de suite. Ah, Mathieu, tout ça. Eh bien, vous savez quoi? L'homme qui était venu me secourir n'était plus là. Et aujourd'hui même, je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui est devenu cet homme. Et est-ce que c'était réellement un homme ou alors qu'il y avait deux ailes cachées sous ses vêtements? Il y avait beaucoup de Hollandais tout nus au bord du Gardon, mais cet homme-là était habillé. Mais je vous raconte cette histoire un peu marquante pour vous dire que Jésus, ce n'est pas un symbole. Il est bien là et il est bien là avec toi aujourd'hui. Il est bien là dans tes circonstances aujourd'hui. Amen. Donc voilà pour la première question. La deuxième question, qu'est-ce que ce passage nous apprend sur les hommes et les femmes, sur l'humanité? Il nous apprend que nous pouvons être sauvés. Nous pouvons être sauvés. Jésus, s'il est mort et il est ressuscité, on va le lire, par sa résurrection existe la puissance pour notre salut. Colossiens 2, versets 12-13. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, c'est ça l'image quand on se fait baptiser d'eau, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision, pardon, c'est-à-dire le manque de soumission de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Ça veut dire que quand Jésus est mort sur la croix, il est mort et nous qui avons placé aujourd'hui notre confiance en lui, quand lui est mort, nous sommes morts. D'accord ? Notre péché est venu sur lui, nous sommes morts avec lui. Et le troisième jour, quand il est sorti du tombeau, qui est aussi sorti du tombeau ? On est sorti du tombeau avec lui. Hein, c'est ce qui est écrit. Il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. C'est-à-dire si ce matin, tu choisis de placer, parce que la foi, ça veut dire ça, la foi, ça veut dire placer sa confiance. Si ce matin, tu choisis de placer ta confiance en Jésus-Christ pour ta vie, si tu es dans cette repentance de tout ce qui a, de tous les actes que tu as commis en dehors de la volonté de Dieu, eh bien, vous savez quoi? Lui, il t'accepte, il prend ta main et il te dit, ce jour où je suis mort, tu es mort avec moi. Et le troisième jour, quand je suis ressuscité, tu es ressuscité avec moi. Et aujourd'hui, tu es vivant, tu peux vivre une nouvelle vie où le péché n'est plus la chose qui dirige ta vie, c'est moi qui dirige ta vie. Amen. Waouh, merci. À chaque fois que je... Vous savez, sans la grâce de Jésus, aucun de nous pourrions nous tenir là ce matin. Mais pourtant, par sa grâce, nous pouvons nous tenir là ce matin. Nous sommes réconciliés avec Dieu et nous pouvons nous tenir devant lui. Amen. Amen. Les enfants, comment est-ce qu'on peut être sauvé? En qui il faut placer sa confiance? Il y a une petite... Jean? En Jésus. Merci Jean. Est-ce que Jean, tu as déjà donné ton cœur à Jésus? Les parents peuvent répondre peut-être. Ouais, t'inquiète pas, on peut le faire plusieurs fois. Super, merci Jean. Du coup, ce matin, vous savez, encore une fois, c'est un message que l'on prêche tout le temps, parce que c'est le seul message en fait qu'il y a à prêcher, qu'il y a un Père dans le ciel qui t'aime tellement qu'il a envoyé son Fils pour qu'il meure et ressuscite afin que tu sois sauvé. Amen. Et peut-être ce matin, tu es là dans cette pièce et tu n'as jamais fait cette démarche. Et moi, je ne veux pas prêcher un évangile bon marché, les amis. Un évangile où dire « Ah ben oui, Jésus », et puis demain « Ah oui, un tel », et après-demain « Ah oui, encore un tel ». Non. Jésus est allé jusqu'au bout. Il s'est livré. Il a été percé pour toi et pour moi. Est-ce que tu veux aller jusqu'au bout? Est-ce que tu veux répondre à cette invitation ce matin et lui donner ta vie et t'engager à le suivre? Je te laisse répondre dans ton cœur. Donc, qu'est-ce que ça nous apprend sur l'humanité? Que nous sommes aussi incrédules et oublieux. Et vous savez, j'ai réalisé, et je le réalisais encore et dans ma propre vie ces derniers temps, et en lisant ce passage, vraiment, ça m'a choqué encore, qu'on peut très bien vivre, comme ces deux disciples, on peut très bien vivre notre vie chrétienne comme si Jésus n'était pas vraiment ressuscité. On peut très bien vivre notre vie chrétienne au quotidien comme si Jésus n'était pas vraiment ressuscité, comme s'il n'était pas vivant avec nous aujourd'hui. Combien de fois nous prenons des décisions, nous marchons, nous entendons des choses, nous sommes là. Mais si on réalise vraiment qu'il est là, qu'il est vivant, ça veut dire qu'il peut tout changer. Ça veut dire que tout peut être différent dans ma vie. Ça veut dire que je ne suis pas seul. Vous comprenez, les amis ? Comme souvent, on se laisse aller à la déprime, on se laisse aller à s'isoler, on se laisse aller. C'est comme si, comme ces deux disciples, on ne réalise pas que Jésus est là avec nous, là où nous sommes, dans chacune de nos circonstances. Il est là dans ta vie ce matin. Il est là dans ta vie ce matin. Et vous savez, j'ai remarqué en fait dans ce passage, qu'est-ce qui fait que les disciples ne reconnaissent pas Jésus ? Qu'est-ce qui fait que... Est-ce qu'un enfant un peu plus grand va me trouver ça ? Qu'est-ce qui fait, les enfants, que les disciples ne reconnaissent pas Jésus ? Est-ce qu'ils portent un masque ? Est-ce qu'ils avaient les yeux bandés comme vous ce matin ? Non, pourquoi ils ne le reconnaissent pas ? Est-ce qu'il y a un des enfants qui saurait dire ? De quoi ils parlent ? Juste avant ça, oui, Siana, excellent. Siana, je crois que c'est ta deuxième sucette, alors désolé les parents, il faudra bien se brosser les dents. Génial, Siana, ils sont tristes. Et j'ai un autre mot pour tristesse ce matin, c'est la déception. C'est la déception. En fait, Jésus, il se présente comme le Messie aux disciples, et il le croit parce qu'il le voit faire tous ses miracles. Jour après jour, il les remet en question. Il leur parle comme personne ne leur a jamais parlé. Il connaît la Torah par cœur et il montre toutes ses références à lui dans la Torah. Qui est cet homme à qui même la tempête obéit ? Au quotidien, ils sont ébahis devant cet homme. Donc, ils croient vraiment que c'est le Messie. Et d'ailleurs, Paul va le dire. Et tu es le Christ, le Seigneur. Il va dire, ah ben, voilà, sur cette révélation, je vais bâtir mon Église. Sauf que même Paul... Même Pierre va le renier. Même Pierre ne va pas comprendre qui il est vraiment dans ce moment-là. Même lui qui était prêt à le défendre en tout temps. Parce qu'en fait, il y a cette déception. Jésus est mort. Jésus est mort. Il accomplissait que des miracles. Il était incroyable. Et d'un coup, il n'est plus là. Et là, qu'est-ce qui vient se mettre dans le cœur des disciples ? De la déception. Ils sont déçus, ils sont attristés. Au plus profond d'eux. Et ça m'a vraiment fait penser à ça pour nous aussi. Vous savez, vous le savez bien, comme moi, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des choses géniales dans notre vie, dans notre quotidien, mais il y a aussi de terribles épreuves. Et on le voit, le monde vit une terrible épreuve aujourd'hui avec tous ces décès. Mon papa a encore perdu un ami d'enfance la semaine dernière de ce Covid. C'est vraiment dur ce que l'humanité vit aujourd'hui. Mais il n'y a pas que le Covid, il y a plein d'autres choses où il y a les conséquences des maladies, il y a tout ce qui se passe dans les familles, dans les couples, etc. Il y a vraiment des choses dures dans notre quotidien, des choses qui nous tirent les larmes. Et le problème quand on vit ces choses-là, c'est que si on ne les vit pas main dans la main avec Jésus, si on ne réalise pas qu'il est là, qu'il est ressuscité, eh ben, ce n'est plus la vérité de Jésus qui va venir conditionner ce qu'il y a dans nos cœurs, ce n'est plus sa paix qui va être dans nos cœurs, sa joie, c'est la déception, c'est la tristesse. Et à ce moment-là, si on laisse ça prendre le pouvoir dans nos cœurs, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, il y a une amertume qui va pouvoir venir. Et puis, il y a des mensonges aussi qu'on va pouvoir croire. Des mensonges tels que, mais est-ce que c'est vraiment le Messie ? Mais est-ce que toutes ces années, c'était vraiment vrai ce qu'il m'a dit ? Mais est-ce que je suis vraiment sauvé ? Mais est-ce qu'il est vraiment là avec moi ? Mais est-ce que tout ça, ce n'est pas du folklore, en fait, tout ce qu'on fait à l'église ? Vous voyez, les amis, ce genre de mensonge qui peut taper à la porte de nos cœurs ? Et je pense qu'il y avait ça dans le cœur des disciples d'Emmaüs. Et Jésus leur dit « homme sans intelligence », mais je pense qu'il les reprend un peu pour les titiller. Mais après, il va se montrer plein de grâce, parce qu'il va tout leur expliquer, il va reprendre depuis le début. Pourquoi il fait ça ? Donc on est incrédule, oublié, il y a la déception. On peut très bien vivre en tant que chrétien comme si Jésus n'était pas vraiment ressuscité. Parce que si on reste coincé dans la déception, on ne pourra pas avancer. Comme ses disciples d'Emmaüs, Jésus, il avait dit juste avant, allez, faites des nations. Non, il va dire juste après, allez, faites des nations des disciples. Mais on ne sera pas capable de faire ça si on est coincé dans la déception. Et du coup, ça nous montre vraiment que c'est important de traiter ces choses-là qui sont dans nos cœurs, ces blessures dans nos cœurs. Et Jésus, vous savez, il ne va jamais nous forcer la main. Vous savez, avec Emmanuel, on a fait ce sabbatique de 3 mois, ce congé, et ça a été dur, je vous l'ai dit, ça a été violent parfois, mais Jésus ne nous force jamais la main. Vous savez, on est comme des oignons, et Jésus, il vient petit à petit enlever les couches autour de notre cœur, les couches de la peau d'oignon, et il vient, il met le doigt dans son amour. Il ne fait pas ça pour avoir enfin un peuple qui est digne de lui, voilà, comme quelqu'un de dur. Non, il fait ça parce qu'il nous aime et il veut nous délivrer de toutes ces blessures. Et là, ces deux disciples ont besoin d'être délivrés de toutes ces blessures. Et dans quoi va être leur salut ce jour-là ? C'est que Jésus vient avec eux et ils vont être... Donc il y a le renouvellement de l'intelligence. Romains 12:2, ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais soyez vous-même transformé par le renouvellement de votre pensée. Et comment cette pensée est renouvelée? Parce que Jésus leur enseigne, leur repart de Moïse et tous les prophètes, il leur redit, refait, vraiment, il leur parle sur ce que la Bible dit. Et la puissance, vous savez, Jésus est la parole de Dieu. Jean nous dit, la parole de Dieu s'est faite chair. Et au moment où il dit cette parole, tac, ça vient toucher leur cœur et c'est leur intelligence d'un coup qui est renouvelée. Donc il y a le renouvellement de l'intelligence par la parole de Dieu, vous savez, hein, la foi vient de ce qu'on entend. Et deuxièmement, il y a cette communion avec Jésus autour d'une table. Et au moment où il brise le pain, c'est là qu'ils le reconnaissent. Et nous aussi, on a besoin du renouvellement de l'intelligence par la lecture de la parole, par vraiment laisser la parole vous toucher. Ah, j'ai la grâce de faire un plan de lecture de la Bible en un an en ce moment, depuis le 1er janvier. D'ailleurs, on est plusieurs de l'Église à s'encourager dans cette voie-là. Vous savez, des fois, on essaye de chercher des solutions à notre bien-être, à notre mal-être, pardon, dans énormément de choses. Mais c'est fou comme une lecture quotidienne et toute simple de la parole peut transformer nos vies. Vous savez, je ne sais plus qui a dit, c'est un peu moins profond, mais il n'y a aucun malheur qu'un bon câlin ne peut pas calmer. Et c'est pareil avec Jésus. Il n'y a aucun malheur qu'un temps de communion avec le Seigneur ne peut pas apaiser. Amen. Et je sais que parmi nous, il y en a ces derniers temps qui ont vécu des circonstances vraiment compliquées. On a beaucoup prié sur WhatsApp et merci Seigneur, on voit la victoire. On voit les réponses aux prières de partout. Mais avant même les réponses aux prières, il n'y a aucune tempête dans mon cœur que Jésus ne peut pas calmer par son amour. Et c'est pour ça qu'on a besoin de cette communion, de marcher avec lui, de se mettre à table avec lui. Amen. Donc, voilà. Troisième question, comment mettre en pratique? Donc, on a vu qu'est-ce que ce passage nous dit sur Dieu, sur nous, et maintenant, comment le mettre en pratique? Donc, il y a ce renouvellement de l'intelligence, et il y a cette foi qui nous permet de connaître Jésus, comme je voulais dire. Mais après, il y a aussi de passer à l'action, parce qu'une fois que Dieu nous a touchés, libérés, donné sa paix, qu'au travers de la dureté des circonstances, on arrive quand même à avancer avec lui, eh bien, Dieu, il va nous utiliser. Il a plein d'œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Amen. Parce que tout ça, ce n'est pas que pour les chrétiens, c'est pour tout le monde. Dieu aime tous les humains et c'est pour ça qu'il nous envoie vers ceux qui sont autour de nous, nos prochains, comme la Bible dit. Et là, on va pouvoir prier pour les malades. Là, on va pouvoir changer. Vous savez, c'est un truc qu'on entend tout le temps aussi dans notre société. Je suis comme ça, c'est tout. En gros, je suis comme ça, je ne peux pas changer. C'est pas vrai. Avec Jésus, tout est possible. Et c'est pas parce que j'ai des difficultés, c'est pas parce que j'ai des blessures. Vous savez, souvent nos problèmes de comportement, ils découlent en fait des blessures qu'il y a dans nos cœurs, du non-pardon, de choses difficiles qu'on a vécues. Donc en fait, quand Jésus vient apporter sa paix, bien sûr qu'on peut changer. Il y a toujours un espoir de changer. Peut-être ce matin, tu te dis, ah moi, ça fait des années que je galère avec ça, je ne peux pas changer. Mensonge ! Oui, tu peux changer. Ça, c'est un des autres mensonges que la déception peut amener dans nos cœurs. Bien sûr, et si tu veux progresser, peut-être tu as une addiction même dans ta vie, des choses comme ça. Oh, j'arriverai jamais à arrêter de fumer, je parle de ça, mais la nourriture, enfin, tout ce qui peut, les séries Netflix. Des fois, on se sent prisonnier de certaines choses et on a l'impression qu'il n'y a pas d'espoir. Mais bien sûr, avec Jésus, il y a toujours un espoir. Amen. Et puis on va aussi prier pour les malades, imposer les mains aux malades pour qu'ils soient guéris, pas prier pour les malades. Une fois, on avait mes beaux-parents, je vous ai raconté l'histoire, mais je la re-raconte parce qu'il y a des nouveaux. Et mes deux beaux-parents étaient vraiment attristés, ils étaient lourds, ils vivaient des circonstances vraiment difficiles. Et ma belle-mère avait depuis quelques mois des problèmes au cœur avec son rythme cardiaque très haut. Et son rythme cardiaque ne voulait pas baisser à tel point que son cardiologue lui prescrivait des traitements de plus en plus lourds pour vraiment arriver à faire baisser ce rythme cardiaque. Et son cœur se fatiguait trop, quoi. Donc il y a une chirurgie qui était prévue pour soulager son cœur. Et ils sont venus chez nous. Et mon beau-père, pareil, au travail, il faisait face à des circonstances. Il était proche de la retraite, mais il était dans une grosse entreprise très dynamique. Et du coup, il était épuisé physiquement, mais aussi psychiquement, quoi. Il y avait une lourdeur sur lui. Et vous savez, comme des fois, on est dans ces atmosphères comme ça. Et ben oui, c'est vrai, des fois, on se dit, on n'y arrive pas. On se dit, ah ben non, c'est comme ça. Et on ne fait pas plus, quoi. Et moi, j'étais là, c'était lourd, c'était chez nous et tout. Mais l'avantage, quand c'est chez nous, c'est un peu nous qui menons la barque. Et d'un coup, j'ai comme une colère qui est montée dans mon cœur où j'ai dit non à l'ennemi, non, je ne suis pas d'accord que c'est toi qui dirige comme ça, qui oppresse mes beaux-parents que j'aime tellement. Et du coup, j'ai dit à mes beaux-parents, ils étaient là sur le canapé, tout penauds tous les deux. J'ai dit, ça ne vous dit pas qu'on prie et que vraiment on demande à Dieu de venir agir dans ces deux situations. Ok, ok. Ils ont accepté, quoi. Et du coup, on a imposé les mains à ma belle-mère, on a imposé les mains à mon beau-père. On a vraiment prié avec foi, mais je vous dis, dans mon cœur, j'avais vraiment cette colère, quoi, de l'ennemi. Je voyais l'ennemi à l'œuvre dans leur vie. Je disais, non, c'est pas possible. Jésus est le plus fort, quoi. Viens, Seigneur, viens agir. Et quelques semaines plus tard, j'avais le bonheur d'apprendre que, après être retourné chez le médecin, cardiologue et chirurgien cardiaque, l'opération était annulée. Parce que le cœur s'était mis à battre spontanément, normalement. Waouh, merci Seigneur, on peut applaudir le Seigneur pour ce miracle incroyable. Merci Seigneur. Et ma belle-mère en parlait à tout le monde, à ses médecins et tout. Elle disait, mais oui, mon gendre a prié pour moi, regardez, Dieu est bon, Dieu est puissant, à tous ses voisines et tout, c'est extraordinaire. Et pareil, mon beau-père, il a pu me dire quelques jours après, waouh, c'est fou, j'ai comme un poids qui s'est enlevé de mes épaules et ça se voyait physiquement. Sur son visage. Je vous dis ça, les amis, parce que voilà, il n'y a pas de fatalité avec le Seigneur. Quand Jésus rentre dans la scène, comme il l'a fait quand il est venu sur la terre, quand Jésus envahit le lieu, tout est possible. Le champ des possibles. Et marchons par la foi et non par la vue. Si c'est nos yeux qui commandent, on va toujours être limité et on va dire non, on va perdre espoir. Non, la foi, l'espérance et l'amour en Jésus. Amen. Et du coup, je voudrais clôturer ce mon message, parce que c'est déjà la fin, par un temps de prière. Je ne sais pas si Estelle... Et non, Estelle n'est plus dans la salle. Bon, Sam, tu es d'accord de te mettre au piano? Merci beaucoup. J'ai vraiment à cœur qu'on puisse passer un temps de prière